Kiosque Magazine.
Bon matin, le mercredi 27 mai, vous écoutez Kiosque Magazine. Au microphone, Anne-Marie Mélina Simard. Bon matin, mes collègues. Alors, bonjour, Christine Boucard, bon matin.
Bonjour, Anne-Marie.
Alors, ce temps très humide et chaud. Christine, il sera question de la santé des enfants avec vous, hein, ce matin.
Oui, tout à fait. C'est un article qui va traiter de la question de la performance.
Et en deuxième partie?
Nous allons parler du thé et de ses vertus.
Le thé, ses vertus. Donc, je pense que c'est un petit peu en collaboration avec mon texte aussi également de l'hyperactivité ou la concentration.
Hein? Parfaitement, on est exactement dans le même sujet.
Et vous, Louise, merci, bon matin.
Bon matin tout le monde. Moi, je vais parler de la techno au service de la santé. C'est quelqu'un qui s'est inspiré des contes des mille et nuits, ou pas nécessairement juste les mille et nuits, là, mais des contes quand on était petit, pour créer des objets qui nous sont utiles aujourd'hui. Et aussi, les bébés préfèrent la voix de leur père. Ça m'a vraiment étonnée. Je pensais qu'ils étaient très concentrés sur la voix de leur maman, mais il semblerait qu'ils écoutent plus les autres bébés autour d'eux. Et le dernier sujet, j'ai quelqu'un de ma connaissance qui a eu un ACV, un AVC en fait, et qui a été très chanceuse de se faire diagnostiquer par quelqu'un de son entourage. Et donc, c'est de savoir les signaux d'alerte.
Bien d'en savoir plus. Alors, moi, pour ma part, en première partie, nous allons parler d'un optométriste canadien qui a développé une nouvelle technologie et également un sujet qui pourra en intéresser plus d'un, une solution permanente aux troubles de l'attention. Alors, je vous souhaite une bonne émission.
Alors, le premier article qui a été publié le 19 mai dans la Presse Plus, la techno au service de la santé, c'est aussi en rapport avec la conférence C2 Montréal qui se déroule présentement. Donc, c'est Marie Lambert-Chang. Alors, un parapluie qui prévoit la météo, un flacon de médicaments qui clignote pour rappeler à son propriétaire de prendre sa dose, une fourchette intelligente qui vibre lorsqu'on mange trop vite, un globe qui s'illumine lorsque l'indice de pollen s'envole. Voilà une poignée d'objets enchantés créés par David Rose, chercheur invité au Tangible Media Lab du Massachusetts Institute of Technology et entrepreneur en série. Les objets enchantés sont des choses ordinaires dotées de pouvoirs extraordinaires grâce à des dispositifs technologiques qui leur permettent de communiquer des données aux humains, explique l'inventeur qui participera à la conférence d'ouverture de C2 Montréal. Dans une entrevue accordée en exclusivité à la presse, David Rose raconte qu'il s'inspire des contes de fées et de la mythologie grecque pour imaginer ces objets enchantés. Selon lui, les tapis volants, les miroirs magiques, les chaussures ailées, les boules de cristal et les potions miraculeuses révèlent nos aspirations les plus profondes. De tout temps, les humains ont rêvé d'omniscience, de téléportation, de télépathie et d'immortalité, dit-il. C'est à cela que je pense quand je conçois mes objets. David Rose a ainsi créé une ribambelle d'objets qui semble tout droit sortie d'un roman de Harry Potter, comme le soulignait une journaliste du New York Times dans un reportage signé en 2014. Il y a le Skype Cabinet, une petite armoire encastrée dans une jolie bibliothèque qui dissimule un écran et qui permet d'établir une communication par Skype. Le Skype Cabinet s'illumine quand quelqu'un cherche à nous joindre. Il suffit d'ouvrir le panneau et nous voilà face à face avec notre interlocuteur. Il y a l'Ambient Orb, un petit globe blanc qui se colore en fonction des données qu'on souhaite qu'il suive en temps réel. Les indices boursiers, la pression atmosphérique, la congestion routière, ce qui serait très utile pour Montréal, l'indice de pollen, etc. Il y a aussi le Nest Thermostat qui adapte la température intérieure selon la routine des habitants de la maison, un bon moyen pour réduire les frais de chauffage. Ou encore le Vessel, un verre qui identifie le liquide qui est versé et calcule les calories, ainsi que la proportion de sucre, de gras, de protéines, de sodium et de caféine. L'objet enchanté le plus connu demeure cependant le Glow Cap. Ce petit capuchon placé sur un flacon de médicaments s'illumine et joue une mélodie pour rappeler à son propriétaire de prendre sa dose. S'il ne le fait pas, dans les deux heures suivantes, Glowcap envoie un message vocal, un courriel ou un texto. Il peut même envoyer des rapports au médecin traitant et un avis de renouvellement de prescription au pharmacien. Les objets enchantés ont le potentiel de nous aider à vivre mieux et plus longtemps, résume David Rose, qui a réussi à commercialiser avec succès plusieurs de ses inventions. Rien à voir avec le téléphone intelligent. David Rose pratique ce qu'il prêche. Sa propre demeure est remplie de ces objets ordinaires infusés de magie technologique. Cependant, n'est-il pas envahissant d'être entouré d'autant de gadgets? Pas du tout, assure l'inventeur. Nous sommes aujourd'hui bombardés d'informations dont la présentation éreinte nos esprits, comme les fils d'actualité de nos comptes Facebook et Twitter. Au contraire, en un bref coup d'œil, l'Ambient Orb peut vous informer de la qualité de l'air. Ce n'est pas plus compliqué que de regarder par la fenêtre. Selon le chercheur, il existe toutes sortes de façons de repenser des objets du quotidien en leur ajoutant une couleur, une texture, un son ou un mouvement dont la seule présence titillera notre cerveau sans le surcharger. Il donne en exemple le mécanisme d'un portefeuille qu'il a conçu pour Bank of America. Plus un consommateur approche sa limite budgétaire mensuelle, plus son portefeuille sera difficile à ouvrir. Tout ça sans avoir à regarder un courriel, un document Excel ou une application. Ces objets nous renseignent de façon subtile et astucieuse, sans que nous ayons à fournir un effort supplémentaire d'attention. En cela, ces inventions n'ont rien à voir avec les téléphones intelligents ou les tablettes. Ils ne sont pas enchantés, car ce sont des objets hors de l'ordinaire qui tentent de tout faire à la fois et de trop en faire. En fait, le scientifique craint qu'un jour, le monde ne se résume qu'à ses écrans de vitres noires, lui qui voue manifestement une affection particulière à toutes les choses palpables. Bien sûr, les objets enchantés n'en sont qu'à leur début, et il reste encore beaucoup à faire pour les améliorer, ne serait-ce que pour assurer une meilleure protection des données qu'ils accumulent à propos des habitudes de leurs propriétaires. Cela dit, les objets enchantés sont là pour rester et ne constituent que la suite naturelle de la révolution numérique, constate-t-il. Alors, mon deuxième sujet, les bébés qui préfèrent la voix de leur père, pas leur père, père, P-E-R, mais P-A-I-R.
C'est ce que j'avais lu dans la feuille de route, père, père.
Non, c'est ça. Puis quand je dis que je suis étonnée qu'ils ne préfèrent pas la voix de leur mère, je pense qu'il y avait peut-être une petite confusion. Alors, c'est un article publié par Marie-France Léger dans la presse du 25 mai. Alors, les jeunes bébés préfèrent entendre la voix des autres bébés plutôt que celle des adultes. C'est à cette conclusion qu'en sont venus trois chercheurs et linguistiques de l'UQAM et de l'Université McGill lors d'une étude menée auprès de quatre cohortes de nourrissons. La professeure au département de linguistique de l'UQAM, Lucie Ménard, la chercheuse principale, Linda Polka, et le doctorant, Matthew Mezzapolo, de l'Université McGill, ont publié le fruit de leur travail. « When infants talk, infants listen », dans la revue « Developmental Science ». Dans une vidéo de présentation, on voit nettement la différence de comportement lorsque bébé Camille entend une voix s'appartenant à celle d'un bébé par rapport à celle d'un adulte. Elle sourit et demeure attentive au son de l'enfant et détourne assez vite la tête quand elle entend la voix d'une femme. Leur préférence pour les voix de bébé nous suggère qu'ils peuvent être très actifs vocalement en écoutant une voix de bébé. Ça jouerait donc un grand rôle dans l'acquisition du langage. Lucie Ménard, professeure au département de linguistique de l'UQAM. Son de bébé ou voix de femme? Les bébés étudiés sont âgés entre 4 et 6 mois, à un stade où ils commencent à peine à babiller. Ils ont été répartis en quatre cohortes de 18 ou 22 nourrissons. Dans les quatre études, on a utilisé des voix artificielles qu'on a manipulées pour les faire ressembler à des sons de bébés ou des voix de femmes. Ces sons très réalistes ont été mis au point grâce à la technologie de synthèse. On a pris la voyelle « i », une des voyelles les plus fréquentes dans toutes les langues du monde. Le bébé regarde 40 % plus l'écran en face de lui quand il est accompagné d'une voix de bébé, précise la chercheuse. Cette recherche serait une des premières à démontrer un si grand intérêt des poupons face à des voix d'enfants. On se rend compte qu'avec cette étude, on pourrait soupçonner plus facilement de la surdité chez un bébé s'il ne réagit pas à ce type de voix d'enfant, conclut la chercheuse.
après ce monde enchanteur, enchanté, il n'y a pas que les grands qui s'amusent. Il y a également les enfants et les petits, mais par contre, quand les enfants craquent, c'est là le sujet de Nathalie Côté dans son magazine, dans le magazine Enfants Québec, dans un article de mai-juin 2015. Il est question de performance. Nous sommes à la période des examens, il y a les compétitions, le sport, etc. Il y a de quoi être un peu nerveux, comme dit Nathalie Côté, avant un examen, une compétition, c'est normal. Cependant, à trop vouloir réussir, nous dit-elle, certains enfants perdent tous leurs moyens. Assise devant son devoir de mathématiques, Elisabeth ignore quoi faire. Elle semble avoir oublié les explications qu'elle a reçues. Sa respiration s'accélère, comme la mienne d'ailleurs. Elle est de plus en plus stressée, en passant à la réaction de son enseignante si elle n'y arrive pas. Elle finit par éclater en sanglots. Cette scène, tirée du livre « Elisabeth a peur de l'échec » aux éditions Dominique et Compagnie 2011, traduit parfaitement le sentiment de nombreux jeunes souffrant d'anxiété de performance. Dans cet album, l'orthophoniste Daniel Noreau et la psychologue André Massé campent une petite héroïne constamment inquiète de ne pas être à la hauteur. Faire ses devoirs, réaliser un bricolage en classe, jouer à un jeu où elle risque de perdre, sauter du tremplin à son cours de natation, toutes ces situations sont source de stress. L'enfant qui souffre d'anxiété de performance redoute toutes les formes d'évaluation et les situations dans lesquelles il pourrait échouer ou se sentir jugé ou critiqué, explique Daniel Noreau. Le problème, c'est que l'enfant est persuadé que le fait de réussir ou de rater une tâche donnée pourrait affecter sa valeur en tant qu'individu, rien que moins. Ce qui entraîne un niveau de stress démesuré dans toutes les tâches qui sont notées ou qui exigent une performance. Peur de l'échec, oui. Le plus souvent, cette anxiété apparaît vers 7 ou 8 ans. Confrontés à la peur de l'échec, certains enfants font preuve d'un perfectionnisme exagéré, tandis que d'autres, au contraire, ont tendance à tout remettre à plus tard. Dans le premier cas, les enfants vont étudier de façon démesurée parce qu'ils veulent l'être et les meilleurs. Nous indique Geneviève Marcotte, qui est psychologue et auteure du livre « Extraordinaire moi, calme son anxiété de performance ». C'est donc un ouvrage qui s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans, qui est assez formidable, aux éditions Midi 30 2014. C'est une sorte de guide. Dans le second, continue-t-elle, le jeune opte pour une stratégie d'évitement et s'oppose aux consignes données, plutôt que de risquer de faire une erreur. Peu à peu, ils deviennent incapables de contrôler leur anxiété à long terme et se sentent de plus en plus mal dans leur peau. Des symptômes tels que de l'irritabilité ou de l'agressivité excessive, une inertie ou une agitation anormale, des nausées, des maux de ventre, de l'insomnie, des cauchemars, des vertiges apparaissent fréquemment. Lorsque l'enfant a de la difficulté à fonctionner au quotidien et qu'il manifeste de tels troubles physiologiques, il faut consulter, conseille la psychologue et neuropsychologue Élodie Autier. Car si elle perdure, l'anxiété peut mener à la dépression. Si cette anxiété est souvent liée à la réussite scolaire, elle peut aussi se manifester dans un sport ou une activité artistique. C'est d'ailleurs lors de ses compétitions de patinage de vitesse qu'Élise, 9 ans, a commencé à en ressentir. Elle peinait à s'alimenter et se plaignait de maux de ventre et de cœur également, avant chacune d'elles. Statistique à l'appui, sa mère a d'abord essayé de démontrer à sa fille qu'elle avait toutes les raisons d'être fière d'elle. Élise améliorait systématiquement ses temps, même si les médailles lui échappaient parfois. Mais puisque la situation continuait de se détériorer malgré les encouragements, la jeune fille a décidé d'abandonner le patinage de vitesse. Cet hiver, elle a plutôt commencé à jouer au hockey. Comme la pression est répartie sur toute l'équipe, lui dit sa mère, ça convient mieux. Pourquoi sont-ils si anxieux, ces enfants? Outre le tempérament de l'enfant, différents facteurs peuvent favoriser l'apparition de ce trouble. Même si c'est souvent involontaire, les parents peuvent mettre de la pression sur leurs jeunes, par exemple en étant eux-mêmes anxieux, perfectionnistes ou dotés d'un fort esprit de compétition. Parfois, leurs attentes sont simplement trop élevées. Mais l'influence de la famille n'explique pas tout. La pression peut aussi venir des amis, des enseignants ou carrément du milieu ultra-compétitif. Il est cependant difficile de déterminer pourquoi, dans la même situation, un enfant devient anxieux et un autre non. Le frère d'Élise, François, évolue au sein du même duo, du même club auquel appartenait sa sœur, et il n'a jamais éprouvé d'anxiété lors de ses compétitions. Certains enfants vont continuer dans un sport, mais se retirer des compétitions parce que c'est trop pour eux. C'est correct, on ne peut pas tout faire à un niveau compétitif, analyse Geneviève Marcotte. Souvent, l'école demande déjà beaucoup aux enfants. Quand les parents endossent ces décisions, ils contribuent à transmettre des valeurs d'effort et de plaisir et peuvent diminuer l'anxiété de performance. Anxiété de performance, peut également rimer avec troubles d'apprentissage, nous dit-elle. Les enfants qui connaissent des difficultés scolaires sont plus à risque de souffrir d'anxiété de performance. Ils aimeraient réussir, mais n'y parviennent pas malgré leurs efforts. Environ la moitié des jeunes ayant un trouble d'apprentissage sont concernés. Lorsqu'ils ne reçoivent pas d'aide, dit Elodie Autier, leur retard s'accroît. Donc ils deviennent de plus en plus anxieux. Plus ils le sont, moins ils arrivent à apprendre, dit-elle. Catherine Loisel, qui est mère d'un garçon de 11 ans, en sait quelque chose. Crie, pleure, coup dans les murs, hyperventilation, c'est-à-dire une augmentation de la ventilation pulmonaire. Il arrivait souvent à Charles-Antoine de perdre le contrôle pendant de longues minutes. À deux reprises, il a eu des attaques de panique. Il nous a supplié de l'amener à l'urgence car il n'en pouvait plus. Il disait qu'il voulait mourir, raconte-t-elle. Son fils souffre d'anxiété de performance, et cela depuis son entrée en maternelle. Mais les médecins ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un trouble de l'attention. Nous l'ignorions à l'époque, dit-elle, mais il est dyslexique et dysorthographique, c'est-à-dire qu'il a des difficultés d'apprentissage de l'orthographe. Il s'est mis à faire des crises chaque matin parce qu'il refusait d'aller à l'école. Il ne comprenait pas pourquoi il ne réussissait pas comme les autres. La moindre révélation le stressait au point où les professeurs ont eu du mal à poser un diagnostic. Mais depuis quelques mois, Charles-Antoine va beaucoup mieux. Comment aider un enfant dans ce cas-là? Souvent, les enfants ignorent que l'anxiété de performance est un problème et qu'ils pourraient se sentir mieux. Mais si votre jeune en souffre, voici quelques conseils pour l'aider. Expliquez-lui ce qui lui arrive en nommant ce qu'il vit. Remettez sa perception en perspective. L'enfant peut croire à tort que les gens intelligents ne font pas d'erreurs. En fait, elles permettent d'apprendre. Fixez des objectifs réalistes pour son âge et ses capacités. Par exemple, vous pouvez lui dire que vous serez content s'il fait moins de 10 fautes dans sa dictée. Aidez votre petit perfectionniste à identifier ses extras efforts et à les éviter. S'il s'éreint 2 heures de plus à mémoriser ses mots de vocabulaire et qu'il fait seulement une faute de moins, ne serait-il pas mieux de se concentrer sur autre chose? S'il a tendance à procrastiner, apprenez-lui à organiser son travail. Enfin, invitez-le à prendre de grandes respirations, à établir une routine ou à utiliser une balle anti-stress pour se calmer.
T'as trempé, tu l'as laissé. C'est clair, c'est classé. C'est un classique, mais c'est pathétique de te voir aller. Et elle revient, rampant à tes pieds. Toi tu pardonnes, les yeux fermés. Et elle revient, rampant à tes pieds. Puis elle repart. Toujours là à travailler, 9 à 5 mal payé. T'es invisible, inaudible, tu te fais marcher sur les pieds. Mais tu reviens tous les matins, le même refrain, l'envie de pleurer. Mais tu reviens tous les matins, les yeux fermés. Mais qu'est-ce que t'attends? Tu reviens tous les matins, les yeux fermés. Mais qu'est-ce que t'attends pour changer de vie? T'as droit au bonheur, le droit de rêver, toi aussi. Mais qu'est-ce que t'attends pour changer de vie? T'as droit au bonheur, le droit.
C'est sur ce titre d'Ariane Brunel, Les yeux fermés, que nous revenons au Kiosque Magazine. Merci Christine pour ce bon texte.
Merci.
Alors, j'ai trouvé quelques pistes de solutions pour moi-même et mon fils qui souffre d'anxiété scolaire ou phobie scolaire, ou on peut l'appeler. Alors, c'est un sujet qui était très à propos. Alors moi, aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle médicale qui est fort prometteuse et qui, je crois que sa diffusion est souhaitable, hein, sa diffusion plus large est souhaitable. Alors, c'est un optométriste canadien qui a développé un œil bionique. Je ne sais pas si vous avez lu cette nouvelle la semaine passée dans la presse.
En fait, moi, je ne savais pas que c'était un optométriste canadien, mais je connais quelqu'un qui a déjà un œil bionique et qui dit que c'est fantastique. C'est mieux que le laser et ça peut être enlevé si on veut, ça peut corriger de près ou de loin. Alors, bravo à l'optométriste.
Alors, cette nouvelle en interpellera plus d'un. Alors, c'est tiré de la presse, un titre du 18 mai. Alors, un optométriste de la Colombie-Britannique a développé une sorte de lentille qui permettrait d'obtenir une vision parfaite sans avoir à porter de lunettes ou de verre de contact, même à un âge avancé. Cet œil bionique, comme l'appelle Garth Webb, pourrait être inséré dans les yeux des patients de 25 ans et plus qui doivent utiliser les lentilles correctives. La petite prothèse compressée serait placée dans l'œil à l'aide d'une seringue et elle serait fonctionnelle en l'espace de 10 secondes, a expliqué l'expert. L'opération, qui ressemble à une intervention pour les cataractes, selon le médecin, ne prendrait que 8 minutes. Mais avec cette lentille, le patient pourrait voir à plus de 9 mètres, a-t-il ajouté. Monsieur Webb, qui est président-directeur général de l'entreprise Ocumetis Technology, a passé les 8 dernières années à travailler sur cette invention qui amènera les gens à se libérer des lentilles correctives. Il a présenté son projet aux meilleurs ophtalmologistes réunis à San Diego pour la rencontre annuelle de la Société américaine de la cataracte et de la chirurgie réfractive. Le docteur Vincent DeLuise, qui est membre de cette organisation, a affirmé que les experts de plusieurs pays avaient été impressionnés par son invention. Ils pensent que ça peut vraiment fonctionner et ils espèrent tous être sur le comité médical consultatif pour l'aider, a-t-il expliqué. Monsieur Webb attend les résultats d'essais cliniques sur des animaux et sur des humains aveugles. Mais le produit pourrait être disponible d'ici 2 ans au Canada seulement et ailleurs, a-t-il prédit. Alors, quand c'est une bonne nouvelle, il faut la partager.
Effectivement.
Alors, de retour, Neurodesign. Neurodesign, c'est une clinique qui est située, qui est à Pignon-sur-Rue, à Westmount, à Montréal. Alors, une solution permanente au déficit de l'attention, le trouble déficitaire de l'attention. Plusieurs parents connaissent intimement ce que signifie l'acronyme TDA pour leurs enfants et ses problèmes d'apprentissage. Donc, trouble déficitaire de l'attention, souvent s'y accole aussi un H ou un I pour hyperactivité ou impulsivité. La plupart du temps, on recourt à la médication pour traiter le TDA avec souvent des effets secondaires désagréables. De plus, si on cesse de prendre le médicament, les symptômes reviennent aussitôt. Alors, retour à la case départ. Le grand avantage du neurofeedback tel que pratiqué par la docteure Joanne Lévesque, neuropsychologue, c'est que les résultats obtenus sont permanents. Et oui, même mieux, très souvent, le patient continue d'améliorer sa performance après la fin du traitement. Nous nous spécialisons dans la rémédiation cognitive, explique la docteure Lévesque. Nous apportons à l'élève une solution qui lui permet de corriger en partie une difficulté comme le déficit de l'attention. Nous améliorons ses capacités d'attention, nous améliorons sa capacité à lire, à comprendre ce qu'il lit, nous diminuons aussi son niveau d'anxiété de façon générale, nous facilitons ses apprentissages et il retient plus. Nous réussissons cela grâce au neurofeedback, une technique qui permet à une personne d'apprendre par entraînement à corriger les anomalies électriques de son cerveau. Une évaluation précise. Le neurofeedback agit sur la mécanique du cerveau. Grâce à un entraînement spécifique, il réussit à faire une réingénierie de la zone cérébrale ciblée. Et c'est là que la docteure Lévesque se démarque par la précision du protocole d'entraînement. Avant d'entraîner qui que ce soit pour CITEL, nous prenons le temps de bien évaluer notre patient au niveau de ses capacités. Attention, lecture et écriture. Et c'est notre force. Une fois cela cerné en termes de capacités cognitives, nous vérifions que ce qui se passe dans son cerveau au plan électrique, grâce à un électroencéphalogramme que nous analysons de façon quantitative. Nous relevons l'information recherchée et la comparons à une norme. Je peux ainsi déterminer où se trouvent les anomalies dans son cerveau et à quoi elles correspondent. Le lien établi, la scientifique détermine avec précision un protocole d'entraînement sur une mesure pour que les ondes ciblées du cerveau de l'enfant travaillent différemment. Quelque 80 % de la clientèle de Neurodesign se compose de personnes ayant des problèmes d'attention souvent associés à de l'anxiété. Pour faire suite à l'article de Christine Vancor, je vois des enfants de 7, 8, 9 ans être anxieux par rapport à l'école, souligne la Dr Lévesque. En les entraînant à améliorer leur attention, je travaille aussi à diminuer leur anxiété. Modifier son état. Une séance de neurofeedback dure une heure avec un ordinateur et un entraîneur. Rien n'est envoyé dans le cerveau. Une électrode posée sur la tête du patient analyse constamment l'activité électrique et les ondes en cause. L'entraînement vise à ce que le patient modifie son état pour générer des ondes à la bonne vitesse de transmission. Un enfant avec TDA, avec ou sans hyperactivité, nécessite en moyenne une quarantaine d'heures d'entraînement. Mais le résultat est permanent. Si bien fait, il va en profiter pour le restant de ses jours. L'entraînement se fait à raison de 2 heures par semaine pendant 5 mois. Le patient et son entourage commencent à percevoir des changements après une dizaine d'heures d'entraînement. Dans 85 % des cas, le patient obtient les résultats voulus, mais dans tous les cas, il y a amélioration. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la clinique Neurodesign qui est située sur Sherbrooke West. Alors, je vous invite à nous revenir après la pause, après cette pause publicitaire.
Le thé est pour favoriser la concentration et la perte de poids. J'ai peut-être une autre solution contre le déficit de l'attention, bien que ce soit de manière plus légère. C'est un article paru dans le magazine Mieux-être de mai-juin 2015. Il est aujourd'hui reconnu que le thé favorise la perte de poids ainsi que l'amélioration du bien-être physique et mental. Certaines études démontrent qu'un seul sachet de thé, ou l'équivalent d'une petite cuillère de feuilles de thé, peut avoir un impact positif sur la santé. Il est tellement facile de profiter des bienfaits du thé que de plus en plus de gens l'adoptent au quotidien, comme l'indique sa popularité auprès du peuple canadien. En effet, le Canada a consommé environ 10 millions de tasses de thé en 2014, croirez-vous, avec une moyenne de 8,3 tasses par semaine par individu. Louise Roberge, de l'Association du thé du Canada, affirme « Que ce soit du thé vert, noir, blanc ou de l'oolong, le thé est un breuvage qui offre un éventail de saveurs. Il est non seulement délicieux, mais il est aussi une source élevée de composés bénéfiques pour la santé, comme il a été démontré par un nombre croissant d'études scientifiques. Buvez du thé à souhait et sans remords, à volonté. Le thé est un breuvage hypocalorique et complètement naturel, et des milliers d'études publiées dans des revues médicales de renommée soulignent également les bienfaits associés à la consommation de thé. Les flavonoïdes, donc un nom savant pour dire qu'il s'agit de composés bioactifs principaux du thé, serait responsable des propriétés bénéfiques de cette infusion si populaire et réconfortante. En effet, le numéro de décembre 2013 du American Journal of Clinical Nutrition a publié des études qui démontrent le rôle du thé en ce qui a trait à la santé cardiovasculaire, le poids corporel et le bon fonctionnement du métabolisme et du cerveau. Nous sommes toujours dans le même sujet, Anne-Marie ?
Toujours.
D'après l'étude, le thé favorise la perte de poids, contribue à la santé cardiovasculaire et stimule la concentration et la vivacité d'esprit, affirme la Dr Carol Greenwood, qui est professeure au département des sciences de la nutrition à l'Université de Toronto, mais également scientifique principale au Rotman Research Institute à Bakersfield et spécialiste de la relation qui existe entre l'alimentation et la santé du cerveau. Nous sommes entre de bonnes mains. C'est particulièrement intéressant, dit-elle, en ce qui concerne la santé du cerveau, puisque nous savions que ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. et le contrôle du poids et la bonne santé du cœur jouent un rôle essentiel au chapitre des fonctions cérébrales. Perte de poids à la vitesse de la lumière. En effet, des chercheurs ont conclu que les personnes consommant du thé vert et de la caféine ont perdu une moyenne de 2,9 kg en 12 semaines, sans changement à leurs habitudes alimentaires. C'est assez remarquable. Les résultats d'une autre analyse suggèrent que l'augmentation de la dépense calorique est égale à environ 100 calories par période de 24 heures et que le thé vert permettrait une combustion des graisses qui dépasse les 12 grammes par jour, rien de moins. Il est certain que la perte de poids engendrée par le thé dépend de plusieurs facteurs, mais les études démontrent qu'une consommation aussi humble que 2,5 tasses de thé vert aurait un impact, un effet bénéfique. Les sources là, on parle d'études en anglais d'ailleurs qui sont sur agcn.nutrition.org que vous pouvez trouver sur le web. Alors le thé et l'humeur, plus alerte, plus concentré, plus performant? Oui. Une autre étude a démontré que boire du thé améliore aussi la capacité de concentration et permet une attention plus accrue envers les tâches à accomplir. Dans cette étude, les personnes ayant consommé du thé ont produit des résultats plus précis lors d'un exercice de concentration et se disaient plus alertes que celles ayant consommé un placebo. Ces effets, qui ont été observés lors d'une consommation de 2 à 3 tasses de thé durant une période de 90 minutes, et les responsables des multiples bienfaits psychologiques du thé seraient la caféine et la théanine, qui est un acide aminé. Le thé et le cœur, un mariage, oui, longue et saine vie d'ailleurs. Des articles de diverses revues explorent aussi comment le thé, vert ou noir, peut améliorer la santé des vaisseaux sanguins. Les directives italiennes pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux, ainsi que le American College of Cardiology Foundation Task Force, affirment qu'aussi peu que 1 à 2 tasses de thé par jour, en combinaison avec un régime alimentaire sain, peut réduire le risque de maladie cardiaque. Plus précisément, la consommation d'une tasse de thé par jour peut diminuer l'incidence des accidents vasculaires cérébraux, on parlait d'AVC tout à l'heure, et des crises cardiaques de 8 à 10%. Une autre bonne raison de consommer le thé. Enfin, pour conclure, voici quelques petits conseils. De multiples bienfaits en une préparation facile et rapide. La préparation du thé est facile, autant pour un sachet ou pour des feuilles de thé en vrac. Vous devez tout simplement amener l'eau à l'ébullition et la verser dans la tasse qui contient le sachet ou les feuilles de thé. Notez bien que le thé noir est le seul type de thé qui devrait être infusé avec de l'eau bouillante. Pour les autres types de thé, en revanche, laissez l'eau bouillante refroidir de 2 à 3 minutes avant de l'utiliser. L'infusion dure typiquement de 3 à 6 minutes, ce temps variant selon les goûts. Une fois l'infusion complète, retirez le sachet ou l'infuseur qui contient les feuilles de thé et buvez à votre santé. En fait, à noter que pour en connaître davantage sur les diverses variétés et les bienfaits du thé, vous pouvez visiter le site web de l'Association du thé du Canada. Ils ont également un compte Twitter et vous pouvez aussi aller aimer leur page Facebook. Merci de votre attention.
Alors encore un sujet très actuel dans le Femme d'aujourd'hui, mai 2015, le couple à l'ère 2.0, les infidélités, le sexting.
Je pense que tu vas parler de Facebook, là.
Oh oui. Alors l'arrivée de nouvelles technologies et le développement du web ont changé notre façon d'être en relation amoureuse. Comment le couple peut-il survivre à toutes ces nouvelles menaces pour les dissoudre? On ne peut pas nier l'importance d'Internet et des réseaux sociaux dans nos vies. Alors, qu'en est-il dans la chambre à coucher? Des lecteurs se confient sur leur expérience. C'est un titre de Valérie Major, qui est sexologue. Josée, 45 ans, Internet, c'est mauvais pour le couple. Moi, que mon conjoint regarde toujours ses courriels pendant nos soirées, qu'il ait un profil Facebook et puisse être en contact facilement avec des femmes que je ne connaîtrais jamais, ça ne m'intéresse pas du tout. Anne, 50 ans, je ne sais pas comment en parler à mes enfants. Même si j'en parle à mes enfants, j'ai peur que ma fille se mette à envoyer des photos d'elle à son copain. Je sais que beaucoup de jeunes le font, mais je ne sais pas comment lui faire comprendre que ça peut avoir de graves conséquences. Ève-Marie, 22 ans. Ça me fait peur, je ne sais pas où devrait s'arrêter la jalousie dans tout ça. C'est tellement facile de tromper sur Internet. J'ai déjà eu un chum qui a correspondu durant des semaines avec une fille sur Facebook sans que je le sache. Pour moi, c'est aussi pire que s'il avait couché avec. Maintenant, j'ai vraiment de la misère à faire confiance. Christian, 32 ans, ça nous permet de garder contact facilement. Mon emploi m'amène à voyager beaucoup. Avec Skype, Facebook et les courriels, je peux continuer à garder contact avec ma blonde et maintenir le désir quand je suis partie. Loin des yeux, loin du cœur peut-être, mais maintenant, on peut se voir et entretenir notre couple quand je ne suis pas auprès d'elle. Êtes-vous d'accord?
Belle excuse, belle excuse.
Jules, 40 ans, ça m'a sauvée après mon divorce. Quand je me suis séparée de ma femme, je me suis un peu trop isolée. Je ne rencontrais jamais de nouvelles personnes, alors me suis tournée vers les sites de rencontres, même si je n'y connaissais rien. C'était étrange au début, mais ça m'a permis d'entrer en contact avec des femmes intéressantes sans me sentir trop gênée. Sophie, 24 ans, je n'ai jamais vécu une séparation aussi difficile. C'était la première fois que je vivais une rupture avec un profil Facebook. De voir que mon ex se remettait aussi vite de notre relation, qu'il faisait la fête pendant que moi, j'avais de la peine, ça me rendait folle. J'ai eu de la difficulté à cesser d'aller regarder son profil. Il a fallu que je le supprime de mes amis. Alors moi, j'ai déjà vu une rupture après 20 ans de couple sur Facebook. Alors le mari a rupturé avec sa femme sur son profil Facebook à 5h30 le matin. Ouais, c'était toute une nouvelle. Après 20 ans. Alors, c'est discutable.
Oui, c'est contestable.
Alors, l'avis de la sexologue sur ces témoignages de lecteurs. L'ère 2.0 apporte son lot de changements dans la façon de séduire, de vivre sa sexualité en couple et de survivre à une séparation. L'accès à la technologie partout permet d'être en communication et d'avoir une présence constante auprès de l'autre. Est-ce bon ou mauvais? Pas évident. Non seulement le flirt peut se passer beaucoup plus rapidement, mais les séparations peuvent être plus longues. Les recherches de Catalina Thomas, spécialisée dans l'impact des réseaux sociaux, montrent que la convalescence émotionnelle peut s'avérer plus difficile, surtout quand on reste ami Facebook. Maintenant, on entend parler de cyber-infidélité. Avec les nouvelles technologies et Internet, les couples ont encore plus de difficultés à définir les règles d'exclusivité. S'engager dans des conversations profondes avec un autre sur Facebook, est-ce trompé? Ça amène des comportements de surveillance sur les réseaux sociaux du partenaire chez un couple sur trois, ce qui n'est pas banal. Des sites web particuliers existent même pour trouver des relations extra-conjugales, dont un qui a un slogan « La vie est courte, ayez une aventure ». Le sexting. Connaissez-vous le sexting? Le sexting arrive aussi. Soit le fait de recevoir et d'envoyer des messages sexy, quand je dis sexy, c'est sexy, ou des photos ou des vidéos osées à l'être aimé ou l'amant ou la maîtresse. Il faut alors penser au risque que ces mêmes photos se retrouvent sur la toile et enveniment par la suite nos relations, voire qu'elles nous fassent perdre un emploi, si le patron tombe sur de telles images. Par contre, l'ère des technologies apporte aussi beaucoup de points positifs. On peut communiquer plus facilement avec l'être aimé, même lorsqu'on doit se séparer. 21% des gens en couple, considèrent que le fait de pouvoir communiquer sur Internet ou par texto les rapproche l'un de l'autre. On peut aussi développer des relations importantes avec des gens malgré un horaire chargé et de rares sorties sociales. Alors, en terminant, peut-être une petite statistique. Savez-vous que 67% des gens en couple ont révélé le mot de passe d'au moins un outil numérique à la personne qu'ils aiment? Et 33% des participants d'une étude ont rapporté avoir eu des comportements d'infidélité émotionnelle sur Internet. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Done before. Help me if you
Merci pour cette belle chanson des Beatles de Help. On parlait d'aide dans bien des cas au niveau du Facebook et des conseils amoureux, mais maintenant, ça va être au sujet des AVC. Comme je disais en introduction, j'ai connu une personne qui a fait un AVC et qui a été sauvée in extremis par quelqu'un qui connaissait les signes. Donc, je trouvais ça important de partager ça avec vous.
Totalement.
Donc, voilà. Ça a paru dans le dossier Pause Santé de la presse Plus. Je crois que c'était le 26 mai, exactement. Donc... L'AVC est une urgence médicale. Le fait de savoir en reconnaître les signes et de réagir vite peut faire la différence entre la vie et la mort, ou entre un rétablissement complet et une incapacité de longue durée. Malheureusement, seulement un Québécois sur deux est capable d'en identifier les symptômes. Et vous, sauriez-vous réagir rapidement? L'AVC, ou accident vasculaire cérébral, est la troisième cause de décès au pays et figure parmi les principales causes d'incapacité grave. Environ 62 000 AVC surviennent chaque année au pays, soit un toutes les 9 minutes. Et plus de 13 000 personnes en décèdent. Un AVC peut donc avoir des impacts considérables. Plus le cerveau est privé longtemps d'oxygène et d'éléments nutritifs apportés par le sang, plus les conséquences risquent d'être importantes, explique le Dr Robert Côté, neurologue à l'Hôpital général de Montréal. Les séquelles d'un AVC varient non seulement en fonction de la région touchée, mais aussi de l'ampleur des dommages. L'AVC peut, entre autres, laisser la moitié du corps paralysé, hémiplégie, entraîner des troubles d'élocution, de vision, de mémoire et de coordination, ou encore affecter la capacité de penser, de comprendre, de planifier, de raisonner, de lire et d'écrire, ou pire, provoquer la mort. Aussi, plus vite vous appelez le 911 pour vous rendre au bon hôpital et plus vite vous recevez le traitement approprié, meilleures sont vos chances de survivre et de vous rétablir avec peu ou pas de séquelles. Plusieurs types d'AVC. Pour mieux comprendre l'AVC, il faut savoir qu'il en existe deux types principaux, soit l'AVC ischémique. Celui-ci est provoqué par un caillou sanguin qui bloque une artère au niveau du cerveau. Ce type d'AVC est le plus fréquent puisqu'il représente environ 85 % de tous les AVC. Cela dit, il existe plusieurs sous-types d'AVC ischémique. Par exemple, l'AVC ischémique athérothrombotique se produit généralement lorsqu'un caillot se déloge au niveau des artères du cou et vient bloquer une artère cérébrale. Parmi les autres sous-types d'AVC ischémique, on peut mentionner l'AVC ischémique cardio-embolique. Ce dernier survient lorsqu'un caillot formé dans le cœur migre vers le cerveau et y bloque une artère cérébrale. L'AVC hémorragique, celui-ci est causé par la rupture d'un vaisseau sanguin à l'intérieur ou autour du cerveau. Ce type d'AVC est le moins fréquent puisqu'il représente environ 15 % de tous les AVC. Là encore, il existe des sous-types. L'AVC hémorragique intracérébral se produit lorsqu'une artère du cerveau se rompt, causant ainsi une hémorragie dans le tissu avoisinant. Ce sous-type d'AVC est souvent relié à une hypertension artérielle mal contrôlée. Il existe aussi l'AVC hémorragique sous-arachnoïdienne. Ce sous-type d'AVC survient lorsqu'un vaisseau sanguin qui se trouve à la surface du cerveau se rompt, entraînant une hémorragie dans l'espace entre le cerveau et le crâne. Donc, c'est toujours des cas où est-ce qu'il y a quelque chose qui se rupture ou qui bloque. Donc, l'importance d'agir rapidement. Lorsqu'une personne est victime d'un AVC, chaque seconde compte, puisque les cellules cérébrales meurent au rythme de 2 millions par minute après l'incident. C'est pourquoi il est essentiel de réagir rapidement. Cela est d'autant plus important que certains traitements peuvent aujourd'hui permettre de réduire considérablement la gravité des séquelles. L'AVC ischémique aigu peut entre autres être traité par thrombolyse, raconte le Dr Côté. Cette approche médicale, qui consiste en l'injection d'un médicament intraveineux, permet de dissoudre le caillou qui bloque la circulation sanguine au niveau du cerveau. Pour être efficace, ce traitement doit cependant être instauré dans les 4 heures et demie qui suivent la survenue des premiers symptômes, d'où l'importance d'agir promptement. L'AVC ischémique aigu peut aussi être traité par thrombectomie. Ce traitement consiste à aller chercher directement dans le cerveau du patient, via un cathéter, le caillot responsable de l'AVC. Là encore, le traitement doit être instauré rapidement, soit dans les 6 heures suivant l'apparition des premiers symptômes pour être efficace. Lorsque possible, on préconise aujourd'hui le traitement mixte, soit la thrombolyse et la thrombectomie ensemble. Les études démontrent une diminution substantielle de la mortalité et des déficits permanents lorsque ces deux traitements sont utilisés conjointement. Retenez l'acronyme VITE, V-I-T-E. Le nombre de personnes qui sont capables de reconnaître les signes de l'AVC et qui connaissent les mesures à prendre lorsque ceux-ci se manifestent, chez eux-mêmes ou chez une autre personne, est encore trop faible compte tenu de l'urgence d'agir promptement. La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC Québec a donc lancé une campagne provinciale de sensibilisation sur les signes de l'AVC afin d'augmenter les chances de rétablissement du plus grand nombre de victimes d'AVC possible. Cette campagne repose sur la mnémonique VITE, qui est un moyen simple de se souvenir des principaux signes de l'AVC. L'acronyme VITE signifie V, visage, est-il affaissé? I, incapacité. Pouvez-vous lever les deux bras normalement? T, trouble de la parole. Avez-vous un trouble subi de prononciation? Et E, extrême urgence, composez le 911. Assurez-vous donc de mémoriser cet acronyme, car plus vite vous réagissez, plus vite vous pouvez vous sauver ou encore sauver un proche. Consultez le site web de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Le mini AVC. Chaque année, environ 15 000 Canadiens subissent un accident ischémique transitoire, AIT, aussi appelé mini AVC. Les symptômes d'un AIT sont semblables à ceux de l'AVC, sauf qu'ils disparaissent après quelques minutes, généralement au bout de 15 à 20 minutes. L'AIT est un signal d'alarme important, car les gens qui ont subi cet accident connaissent un risque plus grand que la population en général de subir un AVC au cours des prochains jours. Il est aussi très important que les victimes d'un AIT consultent et se fassent traiter pour éviter qu'elles ne subissent un AVC, rappelle le docteur Côté.
Bye bye nuages, welcome soleil. J't'ai attendu toute la journée. Y'a du travail, c'est pour toi. Si t'es pas trop pressé de partir, une pluie toute fraîche à nettoyer, de tout petit cœur à réchauffer. Sa plage à colorer, brun foncé ou rouge brûlé. Si en plus de tout ça tu veux bien sécher ma portion de Colombien, je te donnerai de quoi manger, des larmes d'amoureux attristés. Soleil à demain matin, j'organise un picnic party, j'ai invité tous les amis, leur disant que tu y serais aussi.
Comme soleil, dit Jim, chante Jim Corcoran. Alors, à propos de soleil, donc, le revoici. Au soleil, soleil, c'est la protection solaire. C'est la protection solaire dont il est question maintenant. C'est le pro qu'il dit. C'est une petite brève qui est tirée de Châtelaine de juin 2015. C'est en fait un question-réponse. Quelques questions à l'expert en soins solaires David Durand, docteur en pharmacie et vice-président et directeur général de Bioderma et d'Estéderme. Question. Faire bronzette en 2015, une mauvaise idée? Réponse. Le soleil est essentiel au métabolisme qui régisse l'équilibre vital. Savoir profiter du soleil et de ses bienfaits sur la peau, notamment pour la synthèse de la vitamine D, est donc aussi important aujourd'hui que ce l'était hier. Ce qui change, c'est la manière de le faire. Profiter de la belle saison ne veut pas dire abuser des rayons. Bronzer en toute sécurité est dorénavant possible. Un FPS 100, c'est la question, est pratiquement identique à un FPS 60, c'est-à-dire l'indice de protection solaire. Vrai ou faux? Vrai. La différence de filtration du rayonnement UV entre les deux est infime. Il n'y a pratiquement aucun avantage, et cela peut induire le consommateur en erreur en lui faisant croire qu'il est mieux protégé avec un FPS 100. D'ailleurs, la plupart des pays tendent à légiférer pour interdire aux fabricants les allégations d'indices supérieurs à 50. Ce n'est pas encore le cas pour le Canada, par contre. Dernière question. Les produits solaires sont-ils périssables? Et là, c'est assez bon à savoir. Réponse, oui, peu de gens le savent, mais les écrans solaires ont une date de péremption, souvent imprimée malheureusement ou gravée dans le plastique du tube, et donc parfois difficile à trouver. Elle est importante puisque passé ce délai, le produit n'a plus la même efficacité. Mais la façon dont on conserve ses tubes ou flacons entre aussi en ligne de compte. Selon l'usage, le produit solaire va plus ou moins bien vieillir. Par exemple, si on le laisse dans un sac de plage en plein soleil tous les jours des vacances ou sur le tableau de bord de la voiture, en été, la chaleur et le rayonnement solaire peuvent l'altérer et bien entendu le rendre moins efficace. Par prudence, on préfère dire que tout produit solaire ouvert est à utiliser dans l'année jusqu'à concurrence de la date de péremption.
Alors, vous désirez-vous des gambettes de rêve? Alors, c'est le magazine FA qui nous donne quelques conseils et quelques achats utiles cette semaine. Alors, grâce à une cure de 84 jours, il est possible d'affiner sa silhouette et de dire adieu à l'aspect inesthétique de la cellulite. 3 fois plus concentré en ingrédients cosmétiques que la plupart des soins offerts pour s'attaquer aux signes visibles de la cellulite, Cellulite est un soin ultra complet. Dont l'efficacité a été prouvée. Et oui, ça a été prouvé. 2 tubes de 150 ml pour une valeur de 89,93 dans plusieurs pharmacies. Alors, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller à idcdermo.com. Et un hall parfait, dès les premières belles journées de l'été, il faut protéger notre peau et notre tignasse contre les effets néfastes du soleil. Il est toutefois possible de le faire tout en profitant des bienfaits chauds grâce au hairspray solaire, doté d'une protection contre les UVA et UVB. Une huile embellissante de Clarins en vente à $30 dans les grands magasins. Si vous voulez plus de détails, clarins.com.
Merci Anne-Marie, merci Louise. Ce sont des sujets bien passionnants que nous avons abordés là aujourd'hui. Et donc, je voulais remercier également Jean-Sébastien à la technique. Sachez que pour avoir accès aux émissions, vous pouvez aller sur canalm.org. Ça vous mènera tout droit à vuezvoix.com. Pour faire vos commentaires, écrivez-nous à canalm@vuezvoix.com. Les rediffusions tous les jours de 13h à 21h. On vous remercie de votre attention. À bientôt, à la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine.